France Inter.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec l'historien et politologue Patrick Veil ce soir. Son dernier livre, publié chez Grasset, a pour titre « Le président est-il devenu fou ?» Sachant, je vous le dis tout de suite, qu'il ne s'agit pas de la France, mais des États-Unis et que le président en question, Woodrow Wilson, est mort depuis un petit moment déjà. Il n'empêche, vu la situation internationale actuelle, il ne sera pas inutile de s'y arrêter. D'autant que les politiques d'aujourd'hui n'hésitent pas à convoquer l'histoire pour tenter d'expliquer le présent.
Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments. Nous sommes à Munich en 1938.
Valérie Ayé, tête de liste Renaissance pour les Européennes. Daladier, Munich 38. Patrick Veil nous rappellera cet épisode de l'histoire. Mais pour commencer, nous allons parler de la France avec notre invité qui est un spécialiste des questions de nationalité, de citoyenneté, de laïcité. Patrick Veil, qui fut à l'origine avec d'autres de la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, nous dira si ce texte est toujours adapté à la situation. On évoquera aussi le pouvoir des livres car notre invité est également président de Bibliothèques sans frontières. À 19h, ce sera le journal de Corinne Audouin. 19h20, le téléphone sonne. Question sur les troubles bipolaires à la veille de la journée mondiale qui leur est consacré. Vous pouvez déjà nous appeler pour témoigner ou poser vos questions. Le standard attend vos appels au 01 45 24 7000. Merci à toute l'équipe du 18-20, Irène Ménahem à la préparation, Juliette Gou à la réalisation. Merci aussi à notre stagiaire Marie Kévin ainsi qu'à Philippe Duclos, Fabrice Desmaz et Loïs Moreau qui sont à la technique.
Claire Servagen. Une semaine en France.
Bonsoir et bienvenue Patrick Veil.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, professeur invité à l'Université de Yale aux États-Unis, spécialiste des questions de nationalité, citoyenneté, laïcité, auteur de plusieurs ouvrages de référence dans ce domaine. Vous avez notamment consacré un essai très remarqué à la loi de 1905 de la laïcité en France, c'est chez Grasset. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par là, puisque je disais que vous aviez participé avec d'autres il y a 20 ans à l'élaboration, en tout cas la préparation de la loi de 2004 destinée à régler la question des signes religieux à l'école. Or, cette semaine a été marquée par un événement sans précédent, puisque le proviseur du lycée Ravel à Paris a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité, après des menaces de mort. Menaces qui ont fait suite à une altercation avec une élève qui refusait d'enlever son voile. On va aller sur place entendre les réactions des parents d'élèves dans un instant. Mais je voudrais d'abord avoir votre réaction, à vous qui connaissez très bien ces sujets. Inquiétude, consternation, comment vous avez ressenti cette histoire du lycée Ravel ?
Eh bien, je dirais qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de lignée entre ce qui se passe en ce moment et 2004, en ce sens qu'en 2004, c'est en réaction à des pressions, parfois à des violences, que la commission présidée par Bernard Stasi, à laquelle je participais, nommée par Jacques Chirac, a proposé l'interdiction des signes ostensibles dans les établissements scolaires. De quoi s'agissait-il ? À l'époque, les jeunes filles avaient le droit de porter des signes religieux, des jeunes garçons aussi portaient par exemple la kippa. Et il y avait des groupes de garçons qui allaient voir des filles qu'ils percevaient comme musulmanes en leur disant « Tu as le droit de porter le voile. Si tu ne le portes pas, c'est que tu as fait le choix de ne pas le porter. Donc tu es une mauvaise musulmane. Alors réfléchis bien, mets ton voile, sinon on va s'occuper de toi. » Et ça, c'était des témoignages récurrents. Et en fait, on s'est aperçu plus tard, parce que c'était un témoignage du secrétaire général des jeunes frères musulmans de l'époque, qui l'a dit dans ses mémoires, il y avait une campagne du mouvement frères musulmans pour faire porter les voiles. Donc il y avait des pressions. Or, la loi de 1905, qui garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, punit les pressions par des articles qui ont été ignorés de tous les gouvernements depuis 40 ans, qui permettent de punir quand on fait pression, soit pour contraindre de porter un signe religieux, soit pour empêcher. Et c'est dans la lignée de cette loi qu'on a fait la loi 2004 pour les espaces scolaires. Et c'est contre les pressions qu'il y a des plaintes qui ont été déposées pour protéger le proviseur.
Et c'était donc déjà l'histoire du voile à cette époque. Alors, on va revenir évidemment sur le contenu de cette loi de 2004. On va se demander si elle est toujours adaptée. Mais on va d'abord retourner sur place devant le lycée Maurice Ravel, puisque ce matin, il y avait un rassemblement qui était organisé devant l'établissement. Il y avait notamment des parents d'élèves qui étaient sur place. On va les écouter, ces parents qui sont au micro de Sonia Princey. Ils parlent notamment du proviseur qui a décidé de quitter ses fonctions.
S'il y a eu conjonction entre son souhait de se retirer du jeu, très légitime, et l'académie ou l'inspection lui a dit « bah oui, peut-être que ça serait bien », je comprends. À aucun moment, il y a eu un procès en... pas en lâcheté, mais ouais, faut tenir. Non, non, pas une menace de mort, c'est une menace de mort. Au sens où ça peut être un gamin de 13 ans qui déconne, comme un gars qui va prendre un couteau et vous décapiter. Donc le spectre est très large sur la question de la menace de mort. Donc c'est absolument compréhensible.
On est là pour le soutenir, on est là pour soutenir l'éducation nationale, l'ensemble des professeurs face à ce qui se passe en ce moment, quoi.
On vous sent très ému.
Oui, 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 c'est un peu un échec de la République, quoi. Enfin, comment on a fait pour en arriver là? Qu'est-ce qu'on a raté? Enfin, on se remet tous un peu en cause aussi en se disant qu'est-ce qu'on a fait de nos enfants? Comment on en arrive à cette situation?
Comment on en arrive à cette situation aujourd'hui, 20 ans après la loi, Patrick Vey? Vous le disiez, c'était par rapport à des pressions, mais c'est vrai que en 20 ans, on peut dire que les mentalités ont évolué. Hein. Les jeunes sont plus enclins à accepter les signes d'appartenance religieuse, à considérer même qu'une interdiction, ce serait presque discriminatoire. Il y a eu une évolution de la nouvelle génération.
Je ne crois pas. Je crois que les jeunes parfois ne comprennent pas bien la loi. Il faut les en excuser parce que parfois leurs professeurs ne l'expliquent pas toujours bien. Et il faut aussi excuser les professeurs parce que parfois eux-mêmes n'ont pas été formés pour enseigner de façon pédagogique, claire et simple, la laïcité. Et le proviseur qui représentait le syndicat des proviseurs l'a dit, il faut démarrer très tôt. Et ça, je voudrais dire quelques mots là-dessus.
Parce que vous-même, vous allez dans les établissements
scolaires. Je vais dans l'établissement et je me rends compte de ce qui se passe. Et je pense que pour l'instant, c'est pas assez bien fait. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis l'assassinat de Samuel Paty, mais ça n'est pas suffisant. Il faut enseigner la laïcité de façon vivante et dans l'histoire de France. Par exemple, au moment de la Révolution française, on fait la sécularisation de l'état civil et du mariage. Et aujourd'hui, depuis 1792, en fait, le mariage a lieu d'abord à la mairie. Eh bien, savez-vous qu'en classe de terminale, quand je fais des conférences, la plupart des élèves ne le savent pas. Pourquoi ils ne le savent pas? Parce qu'on ne leur a pas appris. Quand est-ce qu'il faut leur apprendre? Peut-être au moment où on fait l'histoire de la Révolution française. Et pas séparément dans un cours sur la laïcité. Et qu'est-ce qu'il faut rajouter à cela? Les élus, aujourd'hui, avec leurs écharpes, vont marquer leur solidarité avec le proviseur, avec les professeurs. Mais ils pourraient faire peut-être un peu plus. Parce que les mariages sont publics. Et les élus, et je leur demande ici solennellement, et je demande à l'Association des maires de France de s'organiser pour cela, d'organiser des invitations de classe, de troisième, de quatrième, de seconde, là où il faut le faire, par rapport au programme scolaire, pour que les professeurs viennent avec leurs élèves assister au mariage, et qu'à ce moment-là, on leur apprenne ce premier moment de la laïcisation.
Voilà, ce serait une forme d'éducation civique hors les murs, c'est ça en fait.
Il faut soutenir les professeurs. Il ne faut pas simplement faire des manifestations avec des écharpes. Il faut aussi que les. Je rappelle que la loi de 1905, c'est une loi qui a organisé le culte au niveau local. Eh bien, les élus doivent prendre en main la laïcité, non pas dans les discours, mais dans des pratiques de soutien aux enseignants. Et ils peuvent le faire très concrètement comme cela. Déjà. Vous voyez.
Alors, ensuite... Pour en revenir peut-être à la loi de 2004 qui nous occupe aujourd'hui, parce qu'elle était censée régler les questions, on voit qu'elle ne règle pas tout. Il y a eu les abayas à la rentrée dernière. Il a fallu que le ministre intervienne. C'était pas forcément réglé par la loi. Est-ce que le cadre juridique y suffit, Patrick Vey, d'après vous?
Je crois que le cadre juridique est là. Vous savez, j'enseigne aux États-Unis, vous l'avez dit. J'enseigne ce sujet-là, c'est-à-dire la laïcité américaine.
Mais c'est bien différent
là-bas.
C'est
pas bien différent, justement. Parce que dès qu'on aborde le sujet par le droit, il y a des différences. Par les manches, chez nous, la marque de la laïcité, c'est les vêtements, c'est le fait qu'il n'y a pas de cérémonie religieuse dans les palais publics. Voilà. Chez eux, c'est l'argent. Nous, on donne beaucoup d'argent pour entretenir les églises. Chez eux, il n'y a pas d'argent. Voilà, c'est la marque de la séparation, elle est là. Mais il y a beaucoup de points communs. Eh bien, chez nous, on dit la laïcité, c'est de la philosophie, la sociologie... Chez eux, c'est le droit. Et chez nous, on devrait commencer par là. Parce que c'est la loi de 1905 qui sépare les églises de l'État. Et depuis, il y a une jurisprudence qui vient du Conseil d'État comme de la Cour de cassation et qui a été largement ignorée par tous les gouvernements depuis que, de nouveau, depuis les années 80, il y a des contestations qui peuvent se régler très bien par le droit et qui se règlent par le droit. Vous savez, par exemple, dans les dernières années, il y a eu des contestations au niveau scolaire. Il y en a eu trois. Il y a eu d'abord, est-ce qu'on peut avoir des repas alternatif pour respecter les contraintes religieuses des juifs et des musulmans. Le Conseil d'État a dit oui, c'est possible, c'est conforme à la laïcité. Les mamans peuvent-elles accompagner leurs enfants dans des sorties scolaires avec des vêtements religieux alors que c'est pas dans l'enceinte scolaire? C'est l'enceinte scolaire, c'est interdit. Le Conseil d'État a dit oui. Et le Conseil d'État a dit en revanche que le ministre avait raison d'interdire les abayas. Et il n'y a pas que le ministre qui l'a dit, et même des sociologues tout à fait opposés à la loi de 2004 ont bien considéré que l'abaya était un vêtement religieux et donc elle rentrait très clairement dans les interdictions prévues par la loi de 2004.
Voilà, et aujourd'hui, on a en plus la contestation du contenu de certains enseignements. Ça, c'est un problème aussi qui est de plus en plus fréquemment évoqué par les enseignants et par les chefs d'établissement.
Oui, mais si vous voulez, ça, évidemment qu'il ne faut absolument pas céder sur ce point, qu'il faut dialoguer. Je pense que il faut enseigner cette histoire de la laïcisation de l'État et de la laïcité en France de façon continue, comme l'a dit le proviseur. Je pense qu'il faut éduquer les parents et les élus locaux doivent y participer massivement. Voilà. Alors après, on ne pourra pas éviter que dans des centaines de milliers d'élèves, il y a quelques cas. Mais moi, ce que je vais vous dire, je voudrais pas qu'on accuse et qu'on toute une génération. Je trouve que les élèves se tiennent. Parfois, ils ne comprennent pas. Moi, je me souviens d'une intervention dans un lycée de la région parisienne, il y a une jeune fille qui me dit « Moi, je suis contre la loi, je porterai le voile si j'avais l'autorisation. Alors expliquez-moi la loi. » Alors je lui ai expliqué. Elle me dit « Écoutez, je ne suis toujours pas d'accord, mais maintenant je comprends. » Et je pense que c'est ça qui est le plus important. On ne peut pas avoir... Quand on est jeune, on conteste. Bon, l'important, c'est qu'on comprenne bien le sens de la loi. Et la loi, la laïcité n'est pas discriminatoire. Elle s'inscrit dans une histoire qui fait l'histoire de la République, et c'est ça qu'il faut bien enseigner.
À propos de la commission Stasi dont vous avez fait partie, qui a préparé la loi de 2004, Patrick Veil, il y a une proposition qui avait été mise sur la table et qui n'a pas été retenue. On va en dire un petit mot, c'est la question des jours fériés.
C'était moi qui l'avais faite d'ailleurs.
C'était vous qui avez fait cette proposition. C'était quoi? C'était des jours fériés à la carte?
Non, c'était l'idée que aujourd'hui nous avons 52 dimanches qui sont, bon voilà, c'est
a priori, oui, c'est 52 le calendrier dimanches. Qui veut ça. Bon.
Après, vous avez 11 jours fériés, dont 6 religieux, mais il y a le lundi de Pentecôte, je ne sais pas si vous le savez son statut, moi j'arrive pas bien à comprendre.
Non, personne ne sait.
Personne ne sait. Alors l'idée, simplement, c'était de dire, puisque le lundi de Pentecôte, on ne sait pas très bien, offrons-le au choix avec tout un autre jour religieux par religion. Là, et puis en début d'année, les salariés, vous, moi, on dit, bon ben voilà, je prends le jour, et du coup, ça fait quoi? D'abord, ça fait une reconnaissance de la diversité, de la nouvelle diversité spirituelle du pays par rapport à 1905. Ensuite, ça ne force pas, ce qui se passe aujourd'hui, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, à se déclarer auprès de leurs employeurs pour dire « je suis juif, musulman, je voudrais m'arrêter ce jour-là ». L'employeur doit le faire. Mais c'est pas l'esprit de la laïcité de faire cette déclaration. Alors évidemment, vous pourrez toujours vous dire que celui qui s'arrête à laïte est musulman, mais il a peut-être choisi l'Aïd parce que ça correspond à un week-end qu'il a envie de prendre. Vous voyez, il y aura cette incertitude qui garantira en quelque sorte la neutralité et l'anonymité qui est conforme à la laïcité.
Voilà, pour l'instant c'est pas sur la table. Hein. On n'en parle pas et on rappelle au passage qu'aujourd'hui, les jours fériés en Alsace-Moselle. Bon, ça c'est autre chose, c'est le concordat.
On n'en parle pas, mais la commission Gérin, qui a proposé l'interdiction des signes complets, enfin la burqa, a proposé de nouveau cette idée-là. Donc elle fait son chemin.
Elle fait son chemin. Je rappelle le titre de votre essai, Patrick Veil, de la laïcité en France. C'est chez Grasset, c'est un ouvrage toujours d'actualité et très accessible. On va poursuivre notre réflexion dans un instant, mais on va d'abord s'arrêter sur l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Juliette Gou. À la une, les questions budgétaires, mais d'abord, la France qui relève son niveau d'alerte terroriste après l'attentat de Moscou, revendiqué par une des branches du groupe État islamique.
Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol.
Aussi, nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé.
Nous devons nous armer face à cette menace.
Emmanuel Macron, Gabriel Attal et Gérald Darmanin pour un même message. Vigilance, alors que les alertes et les cybermenaces se multiplient, notamment dans les lycées.
C'est vrai, c'est faux, on ne sait plus quoi en penser. Après, là, ça va prendre un peu plus au sérieux vu les circonstances qu'il y a eu en Russie, tout ça.
Ni moutons, ni pigeons, les retraités veulent du pognon.
Mardi, nouvelle journée d'action des retraités.
On va nous baisser nos retraites sans arrêt, si on ne se mobilise pas.
Je sais bien que M. le maire passe son temps à nous dire qu'il n'a pas de fric, mais il en a pour certains, pas pour d'autres.
Je reste totalement opposé à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes.
Pas question de changer de cap, dit le ministre de l'Économie, alors que la gauche ne cesse de réclamer un partage des efforts. La secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier.
Si on taxait les super-profits, on pourrait foutre la paix aux Français.
Ou pour dire les choses autrement...
Il faut que les efforts demandés soient réels, mais il faut qu'ils soient équitablement partagés, sinon ils ne seront pas acceptés.
La mise en garde est signée Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, alors que le déficit public atteint un niveau record.
Monsieur le Premier ministre, la situation est grave.
Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée.
Elle est grave parce que vous avez menti aux Français. Vous saviez, dès la présentation en octobre du budget 2024, que vos chiffres étaient faux. Le Sénat l'a montré.
Monsieur Marleix, nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge, c'est celui du travail.
Et le Premier ministre d'annoncer une énième réforme de l'assurance chômage.
Mon objectif, c'est pas de m'en prendre à tel individu ou au chômeur.
Explication.
Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois.
Sur le fond, l'obsession du gouvernement pour les privés d'emploi vire maintenant aux troubles obsessionnels. C'est clair, il y a de très bons psychiatres, je recommande au gouvernement parce que ça s'inscrit en dehors de toute rationalité économique.
La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.
Il n'y a aucune étude économique qui démontre qu'en tirant les droits des privés d'emploi vers le bas, on crée de l'emploi.
C'est vraiment une considération populiste.
François Omeril, le président de la CGC.
C'est le gouvernement du coin du bar, c'est absolument scandaleux.
Salaud pauvre.
Et maintenant, direction la forêt tropicale au Brésil.
Seigneur Emmanuel Macron.
C'est là, en pleine nuit, en présence du président Lula, qu'Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur au chef Raoni.
Je vais maintenant te décorer. Neym Kouré, Raoni, merci. Pour ton œuvre, ton combat à la sable, pour toute l'Amazonie et ses peuples autochtones.
Lula.
Je considère Lula comme mon frère, Macron comme mon fils.
Le chef Raoni qui lutte contre la déforestation et appelle à consommer local. Dur dur quand il s'agit du chocolat et que Pâques arrive.
Je suis fan de chocolat. Moi, si j'ai pas du chocolat dans ma vie, ça ne va pas.
Une semaine en France, toujours en compagnie de Patrick Veil, directeur de recherche émérite au CNRS. Un commentaire, Patrick Veil, sur l'une ou l'autre de ces informations? Sur l'impossible débat budgétaire? Non.
Ça, bon, écoutez, ça révèle un déséquilibre de nos institutions, le fait que le Parlement n'est pas bien informé de la situation du budget. C'est un sujet très vaste, sur lequel, si vous voulez qu'on démarre là-dessus. Bon.
Pas forcément. On va évoquer évidemment maintenant votre livre, et c'est la situation internationale qui nous interpelle, puisque Vladimir Poutine, certains s'interrogent sur son attitude. Ça résonne avec votre dernier livre publié chez Grasset, Le président est-il devenu fou. Alors je le disais, ça concerne un président des États-Unis qui a vécu il y a un siècle, hein, il y a plus d'un siècle. En quoi est-ce que ça peut nous interpeller sur la situation d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il avait ce président Wilson?
Alors je voudrais vous citer un des récents présidents de la Chambre des représentants, républicain, qui déclare hier à la télévision, je viens de le voir, Trump n'est pas un conservateur, il est un populiste autoritaire et narcissiste. Donc le terme narcissiste, c'est un terme psychologique qu'on n'aurait pas employé très facilement il y a 50 ans dans les débats politiques. J'ai participé, à la suite de l'écriture de ce livre, à un débat avec des collègues à Amsterdam pour comparer Trump, Wilson et Poutine. Et d'ailleurs, on a trouvé un point commun, c'est un père humiliant et autoritaire chez les trois. Bon. Donc la question de la psychologie et de la personnalité des dirigeants est maintenant franchement dans l'actualité. Et la chance que j'ai eue, d'abord c'est de trouver un inédit de Sigmund Freud sur le président Wilson dans les archives de Yale.
Parce qu'il s'est penché sur son cas, à la demande d'un diplomate qui travaillait avec Wilson.
Oui, exactement, William Bulit qui était ambassadeur. C'est là où on peut en venir à Munich. Il était ambassadeur des États-Unis à Paris au moment de Munich. Et il joue un rôle très important dont on va parler. Bon. Et alors, ce qui est ensuite fascinant, c'est que pour faire un ouvrage un peu sérieux, il faut avoir des faits, des données. Or, Wilson se confiait à ses conseillers, à ses amis, comme on parle à un psychanalyste. Il racontait ses rêves, ses cauchemars, ses sensations, ses affects. Et donc, il y a un matériel qu'a réuni Bulit pour Freud qui permettait de révéler cette personnalité déséquilibrée.
Alors, et c'est un gros livre hein, qui fait 400 pages, vous le lirez. Vous l'avez même écrit en anglais au départ,
Patrick Veil. The Madman in the White House, il est publié en anglais et il est traduit vers le français. Alors, ce qui est intéressant...
Est-ce qu'on peut dire que la morale, c'est de ne pas trop laisser le pouvoir à un homme seul?
Alors, Bulit pensait que c'était l'une des conséquences du régime présidentiel. C'est rare pour un Américain de dire qu'il était contre le régime présidentiel. Il concluait qu'il fallait avoir un régime parlementaire. Mais ce qui est intéressant, et ça nous amène à l'histoire de France, on a tendance à considérer que c'est Clémenceau qui a imposé un traité horrible aux Allemands, etc. Ça n'est pas vrai du tout. Parce que le traité de Versailles était très équilibré, les réparations très élevées avaient été demandées par les Anglais, mais Clémenceau n'avait pas demandé les réparations, lui, il avait demandé un traité de sécurité militaire. L'OTAN avant la lettre qu'il a obtenue des Américains. Et quand Wilson a fait capoter le traité
de Versailles,
eh bien, il a créé un tel désordre qu'il a provoqué, probablement, c'est le plus grand provocateur de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout, finalement, Clémenceau a perdu son pari transatlantique, il a perdu son pari, mais c'est pas lui le responsable d'un traité où les États-Unis n'étaient plus là.
Alors, à propos des références historiques, on est en plein dedans actuellement, sans doute avec le retour de la guerre en Europe, hein, aux portes de l'Union européenne, avec ce qui se passe en Ukraine. Il est évidemment beaucoup question de Munich 1938. La tête de liste Renaissance aux Européennes y a fait directement allusion en lançant sa campagne il y a quelques jours à Lille. Voilà ce qu'a dit Valérie Ayé, on va la réécouter. Elle est au micro de Maxence Lambrec.
Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments. Nous sommes à Munich en 1938.
Alors, on a besoin que vous nous éclairiez là et que vous nous rafraîchissiez la mémoire. C'est quoi cette référence à Munich 38?
Munich, c'est l'idée qu'on céderait à Hitler, que la France... Alors, si la France a cédé à Hitler, c'est le 7 mars 1936, quand Hitler envoie l'armée allemande occuper la Rhénanie, ce qui était interdit par le traité de Versailles. Il avait dit à ses généraux, si la France réagit, vous reculez. La France n'a pas réagi. Et là, c'était le basculement.
Donc pour vous, c'est pas septembre avec Daladier?
C'est pas 38. C'est le 7 mars 36. Monsieur Sarrault, président du Conseil, on a oublié son nom. Mais c'est lui qui a, au moment décisif, ne prend pas la responsabilité qu'il aurait dû prendre. Qu'est-ce qui se passe en 38? Entre 36 et 38, l'Allemagne s'est réarmée à vitesse grand V. Elle a produit des avions avec de l'aluminium, tandis que nous avons toujours des avions avec du bois et des cordes. Quand Daladier se rend à Munich, l'aviation allemande a 1000 avions aluminium, nous en avons 27. Les Anglais veulent signer l'accord de Munich, les Américains aussi. Que peut faire le président du Conseil français? Rien, sauf qu'il revient et qu'il fait quelque chose de fondamental. Il raconte à Bulit, le co-auteur de livre avec Freud, ce qui s'est passé à Munich. Et Bulit dit « Je vais voir Roosevelt tout de suite ». Il prend le bateau. Le 13 octobre au soir, il est à la Maison Blanche. Et il lui dit ce que lui a dit Daladier. Daladier lui a dit « Si j'avais eu 3000 avions, je n'aurais pas signé Munich ». Et ça rentre dans la tête de Roosevelt et ça ne le sortira jamais. Le lendemain matin, le 14 octobre, il convoque une conférence de presse. Il dit « Mettez à la poubelle le budget militaire, je veux faire 20 000 avions ». Il convoque Jean Monnet qui avait accompagné Bulit et il annonce qu'il va aider la France en lui permettant d'acheter des avions produits aux États-Unis. Et il va donner l'ordre de donner la priorité à la fourniture d'avions à l'armée française à partir de 1938. Donc ce qu'a fait Daladier, c'est qu'il a permis à Roosevelt de choisir entre ses conseillers ceux qui étaient attentistes et pacifistes et ceux qui lui disaient de préparer la guerre. Il a joué un rôle très important dans la préparation américaine et dans l'aide américaine que l'Amérique a pu nous apporter.
Donc attention aux parallèles qui sont faits aujourd'hui en référence à cette époque par rapport à la Russie et à l'Ukraine, si je vous entends bien.
Oui, et surtout, faisons attention de bien connaître l'histoire de nos leaders et l'histoire politique de la France, qui n'a pas que la laïcité qui est mal enseignée.
Alors, à propos d'histoire, il n'y a pas que la tête de liste Renaissance et Emmanuel Macron qui font référence à ce qui s'est passé. Dans l'histoire, on a le RN cette semaine qui s'est livré à des états généraux de l'immigration en faisant référence, alors là, à ce qui s'est passé en 90, à ce qu'ont fait le RPR et l'UDF. Je ne sais pas si vous avez suivi, Patrick Weil, vous qui suivez les questions d'immigration. C'est une façon de dire ben, la droite de l'époque était encore plus à droite que nous aujourd'hui.
Écoutez, le RN a voté avec la majorité actuelle, le projet de loi
immigration. Ça, c'était en décembre dernier.
D'ailleurs, et le RN aussi avait présenté un amendement pour exempter les responsables d'entreprises de moins de 11 salariés des contrôles sur la régularité du séjour des employés. C'est-à-dire que le RN, sur le sujet de l'immigration, a un discours extrêmement radical anti-immigré, mais protège ses propres électeurs qui recrutent des clandestins. Alors, le RN fait de la politique politicienne sur le dos de la politique d'immigration, mais je dirais qu'il a une responsabilité largement partagée. Puisqu'on parlait de Wilson, on peut dire sur Wilson que Freud s'y est intéressé parce que il a, avec le traité de Versailles, mis en colère les populations des nations ennemies, et puis ensuite, en faisant échouer le traité au Congrès américain, il a désarmé ses alliés. Qu'a fait Emmanuel Macron ? Il a mis en colère la gauche, qui a voté massivement contre la loi. Ensuite, il a mis en colère l'extrême droite et la droite, parce qu'il a demandé au Conseil constitutionnel de casser la moitié de la loi.
Sachant qu'il s'attendait à ce que le Conseil casse.
Oui, mais il a mis en colère cette partie de la droite. Et ensuite, il a aussi désarmé, en quelque sorte, sa majorité qui s'est divisée, et l'État de droit, parce que le Conseil constitutionnel n'a pas à faire la voiture balai. Donc vous savez, il y a des récurrences historiques qui sont intéressantes et des comparaisons qui sont intéressantes à faire.
Alors, à propos des suites de la loi immigration, il y a un autre projet qui arrive, qui devrait arriver, on ne sait pas très bien, de réforme une réforme constitutionnelle à propos du droit du sol à Mayotte. Ça a été annoncé par Gérald Darmanin, qui est allé sur place le 11 février dernier.
Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte, dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français.
J'avais envie de vous entendre sur ce sujet, Patrick Weil, parce que c'est un de vos sujets de prédilection, tout ce qui concerne la nationalité.
Le droit du sol français n'est jamais un droit du sol automatique, c'est un droit du sol conditionnel. Monsieur Macron a dit que Mayotte est devenue la plus grande maternité de France, sauf que ça n'a aucune conséquence sur la nationalité. Les femmes comoriennes qui accouchent à Mayotte, leurs enfants ne sont pas français. Il faudrait pour cela, maintenant, que l'un des parents soit en situation régulière depuis plus de 3 mois, ce qui n'est pas le cas. Donc, et encore qu'ils fassent leur demande à partir de l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans. Donc, là, il y a un abus de confiance à l'égard des citoyens qui ne sont pas censés connaître toutes les droits. Et quand on dit droit du sol, on a l'impression que c'est comme aux États-Unis. C'est vrai que si une femme française va accoucher aux États-Unis, son enfant est américain. Ça n'est pas le cas en droit français. Donc, tout le monde l'a dit, y compris Monsieur Valls, qui est ancien Premier ministre. Et moi, j'ai eu des témoignages d'anciens responsables de la majorité Sarkozy qui m'ont dit, le droit du sol n'est en aucun cas la cause de l'arrivée de ces femmes et de ces migrantes des Comores vers Mayotte. Donc ça veut dire quoi, changer la Constitution ? Ça veut dire créer du désordre. Ça veut dire, parce que monsieur le président du Sénat, monsieur Larcher, a dit il faudra étendre cette réforme à l'ensemble de la France. Donc on va remettre en cause tout le droit du sol pour ne rien régler à Mayotte. Qu'est-ce que c'est que cette approche, je dirais, fallacieuse d'un problème très tragique, celui de Mayotte, et qui n'a rien à voir avec le droit de la nationalité française.
On va continuer à parler de tous ces sujets, Patrick Weil, et on va parler de vous, mais c'est dans quelques minutes.
Voltar and travel faster than the truth. Love, no, be loud in silence to get proof. Oh no, I'm not aloof, my darling. The he saying, she say, I'm disregarding. No, but kind of quick.
Fatou Matia Lewara, choix musical, signé Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie de Patrick Veil, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur invité à l'université de Yale aux États-Unis. On va parler de votre parcours, Patrick Veil, à présent, car on vous présente comme historien, mais ce n'est pas votre formation première. Au départ, c'était le droit. Mmh. Racontez-nous.
Bah, je me suis inscrit en fac de droit après le...
Paris 1 ?
Paris 2.
Paris 2.
Puis après, j'ai été interdit de séjour à Paris 2 parce que j'étais militant socialiste à l'époque. Je suis resté jusqu'en 85.
Et ça, ça passe pas à Paris
2. Ça n'est pas passé à l'époque du GUD, où le GUD contrôlait Paris 2. J'étais interdit de séjour et je suis passé en troisième année à Paris 1.
Et vous avez trouvé des professeurs éminents.
Et alors, j'avais eu Georges Vedel en deuxième année, en droit administratif, et j'ai eu Robert Badinter en procédure pénale. L'année où il a... gagner son procès, sauver la tête de Patrick Henry.
Et ça, voilà. Ça doit laisser des souvenirs intéressants.
Et puis, c'était un grand professeur qui avait l'intelligence de ne pas nous faire apprendre le code par cœur et de s'intéresser à l'avenir de chacun de ses étudiants. J'en ai gardé un excellent souvenir.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous bifurquiez vers l'histoire, sachant qu'entre-temps, vous êtes passé par l'ESSEC, l'école de commerce?
Alors, j'ai fait l'ESSEC un peu pour me garantir une certaine sécurité financière. Et puis, je travaillais à mi-temps pour un parlementaire, François Autain, qui est devenu ministre.
Vous étiez assistant parlementaire, c'est
ça ? J'étais assistant parlementaire à mi-temps. Il est devenu ministre et je suis devenu son chef de cabinet. Il a d'abord été à la Sécurité sociale, puis aux travailleurs immigrés. Et là, j'ai appris ce sujet. Je suis parti au bout d'un an parce que je me suis rendu compte que je n'aimais pas le pouvoir, que ça, voilà, ça ne m'intéressait pas. Alors, donc, je ne sais pas ce que je voulais faire.
Mais vous avez rencontré la question
de
l'immigration.
Et donc, deux ans plus tard, j'ai décidé de faire une thèse. J'ai pris ce sujet de l'histoire de la politique d'immigration. Et c'était une thèse de sciences politiques. Mais je me suis tout de suite intéressé à l'histoire de cette politique. Et du coup, j'ai été adopté, en quelque sorte, par les historiens qui m'ont élu au CNRS directement comme directeur de recherche. Après que j'ai publié mon livre « La France et ses étrangers ».
Voilà, alors vous avez rencontré la question de l'immigration dans ce cabinet ministériel, mais cette l'immigration, c'est aussi l'histoire de votre famille, Patrick Veil.
Oui.
On peut le dire, hein, un grand-père né allemand, finalement parti aux États-Unis, un autre grand-père immigré venu d'Ukraine, une grand-mère venue de Pologne.
Alors, mon grand-père né allemand, parti aux États-Unis, il est parti aux États-Unis en juin 40, avec sa famille, pour sauver... se sauver. Hein, c'est une famille juive, donc. Et du côté de ma mère, ils ont réussi à s'enfuir vers la Suisse. Bon, et ensuite, ils sont tous revenus en France. Alors, je vais vous raconter une histoire très personnelle. J'ai fait mon deuxième livre, qui s'appelle Qu'est-ce qu'un Français ? Et je l'ai fait parce que j'ai eu accès aux archives du ministère de la Justice, sur l'ordonnance de 45 sur la nationalité. Et ils m'ont laissé dans une sorte de salle où il y avait toutes les archives. J'ai ouvert une armoire et je suis tombé sur un projet de loi de Vichy que personne ne connaissait. Et là, j'ai dit, je fais un livre. Je pensais le faire en un an et je le fais, ça me met 7 ans au total. Et puis, sur la période de Vichy, il manquait, et il manque toujours, les archives des gens qui ont été déchus, comme De Gaulle. De Gaulle a été déchu de la nationalité française. Pétain a signé le décret de déchéance du général De Gaulle et de sa famille. Bon. Donc, il n'y a pas d'archives sur ça. Sauf les archives sur les confiscations de biens. Et un jour, l'archiviste qui savait que je cherchais ça me dit « Monsieur Veil, j'ai trouvé quelque chose pour vous qui va vous intéresser. » Et c'était une boîte avec des fiches. Et j'ouvre. J'étais avec mon premier thésard qui faisait aussi des recherches sur le sujet. J'ouvre la boîte et je pousse un certain cri, je dois dire, parce que j'ai découvert que mon grand-père avait été déchu. Et ses frères, et toute sa famille. Donc.
Et ça, on ne vous l'avait pas dit.
Et on ne me l'avait jamais dit. Et donc, j'en ai eu confirmation ensuite par mon père. Alors ensuite, ils ont été réintégrés, parce que tout ça, c'est au moment, comme De Gaulle, ils étaient dans la même catégorie de Gaulle. Mais vous voyez comment, parfois, le travail historique vous fait découvrir des événements très personnels et très douloureux. Parce que s'ils ne pouvaient pas en parler, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'interprétation. Je pense que même si ça venait de Pétain, bah, c'était pas quelque chose dont ils voulaient... il pouvait pas être, voilà, il voulait pas en parler.
Voilà, et c'est aussi pour ça que vous êtes quelqu'un qui est passionné par les archives, et on en parlait à propos de du président Wilson et de ce livre que vous venez de signer. Un petit mot, Patrick Veil, parce que l'émission touche à sa fin, de l'association Bibliothèques sans frontières, parce que vous en êtes le président, fondateur,
oui,
aussi,
oui,
d'ailleurs.
Bien sûr, oui, oui.
Pourquoi vous avez créé cette association?
Oh, c'est toute une série de circonstances. D'abord, j'ai
vous avez une minute, hein.
J'ai trop de livres chez moi. J'ai proposé, je voyais avec les questions d'immigration qu'il y avait dans les pays d'immigration, il y a besoin de bouquins. Je suis allé voir le maire de Paris, et donc je me suis dit, on va faire quelque chose avec le don de livres. J'ai fait un appel d'offres d'un stagiaire qui est le directeur général Jérémy Lachal, avec qui on fait un tandem formidable, et on a depuis développé une association qui fait à la fois du don de livres et qui permet avec des technologies les plus novatrice, avec des cartes SD, de toucher, d'apporter des livres sur ces cartes SD dans les zones d'Afrique où il n'y a pas l'Internet. Donc on porte à la fois le livre papier, qui est, le papier c'est la liberté, c'est sans, et en même temps les nouvelles technologies pour qu'il n'y ait pas de discrimination et d'injustice dans le développement de ces nouvelles technologies de l'accès à la connaissance et à la culture.
Voilà, vous amenez ça en Afrique, y compris dans des camps de réfugiés, et puis vous agissez aussi ici en France à destination des quartiers populaires.
Des quartiers populaires, des zones rurales, des villages qui n'ont pas de centre culturel. On a créé avec Philippe Stark l'Ideas Box, qui est un centre culturel portatif sur une petite camionnette. Vous transportez et vous avez, en l'espace de 20 minutes, tout un espace où vous avez des cinémas, des livres, des ordinateurs, etc. Voilà. Voilà. Et ça va dans les camps de réfugiés, mais aussi chez nous, en France.
Voilà, on va sur votre site si on veut donner des livres. Merci beaucoup, Patrick Veil.
Merci à vous.
Le dernier livre, Le président est-il devenu fou, chez Grasset, et toujours de la laïcité en France. Merci mille fois.